Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, l'évangile de ce huitième dimanche après la Pentecôte propose à notre méditation la parabole de l'économe infidèle. Cette parabole appartient en fait à tout un ensemble de petits récits très imagés, rapportés à la suite par l'évangéliste Saint Luc, et dont l'objet général est la miséricorde divine. Demandons-nous donc d'abord, en introduction, ce qu'est la miséricorde. Être miséricordieux, dit saint Thomas d'Aquin, c'est être affecté de tristesse à l'égard de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre. On se met à la place de l'autre, c'est ce qu'il faut faire dans la pratique de la charité envers le prochain, et l'on est affecté par ce qui l'affecte. Et alors on s'efforcera d'écarter cette misère du prochain, dans la mesure où on le peut. Quand il s'agit de Dieu, dit saint Thomas, il ne saurait y avoir de tristesse, mais écarter la misère d'autrui lui convient par excellence, c'est lui qui est tout puissant, entendant par le mot de misère un manque, un défaut de quelque nature que ce soit. Les récits de saint Luc commencent par deux petites anecdotes, la brebis égarée et la drachme perdue. Quel est l'homme parmi vous qui a 100 brebis et qui, s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle en perd une, n'allume la lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Notre Seigneur, par ces deux petites anecdotes, veut nous montrer avec quelle sollicitude il recherche le pécheur pour le ramener dans la maison de son Père. Puis viennent trois grandes paraboles. La parabole de l'enfant prodigue, dont la leçon principale est que le retour dans l'amitié de Dieu est toujours possible, quels que soient les péchés passés. La parabole de l'économe infidèle, celle de ce dimanche. Cette parabole forme le cœur de tout cet enseignement, car elle nous donne un conseil précieux pour obtenir la miséricorde divine. Et puis enfin, la parabole du mauvais riche et de Lazare vient nous mettre en garde. Si nous restons sourds au conseil de miséricorde de notre Seigneur, nous ne pourrons échapper à l'enfer éternel. Bien sûr, au premier abord, la parabole de l'économe infidèle a de quoi surprendre. Sommé de rendre ses comptes par son maître, excédé de ses malversations, l'économe infidèle trouve encore le moyen de voler son employeur pour se tirer d'affaire. Ce dernier en est tellement stupéfait qu'il laisse échapper son admiration, non pas pour l'incroyable malhonnêteté de son économe, mais pour son habileté incroyable à retourner la situation à son avantage. Le maître ne pouvait s'empêcher de louer l'intelligence de son intendant malgré le tort qu'il lui causait, dit saint Augustin. Notre Seigneur en tirera une leçon qui tourne à notre confusion. Les enfants de ce siècle, dit-il, sont plus prudents pour leurs affaires de ce monde que les enfants de lumière pour leur salut. Une des parties constituantes de la vertu de prudence s'appelle en effet la prévoyance, un mot qui vient du latin prévidere, voire à l'avance. Par la prévoyance, dit saint Thomas d'Aquin, le regard s'attache à quelque chose de lointain comme à un terme auquel doivent être ordonnées les actions présentes. En d'autres mots, la prévoyance nous aide à ne pas perdre de vue le but final que nous nous sommes fixés, afin d'agir toujours en conséquence. Et c'est cela qui constitue la prudence en tant que telle. Si l'on s'est fixé pour but ultime de la vie les biens de cette terre, alors on cherchera à avoir le plus d'argent possible pour les acquérir. L'argent, qui n'est pas mauvais en soi, car il peut servir pour le bien, n'est plus ici que l'instrument du péché. Notre Seigneur parle du mammon d'iniquité, et le zèle qu'on met à l'acquérir s'appelle la prudence de la chair, selon ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Ceux qui sont selon la chair goûtent les choses de la chair. Or, la prudence de la chair, c'est la mort, car la sagesse de la chair est ennemie de Dieu parce qu'elle n'est pas soumise à la loi de Dieu. Et comme elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, eh bien, cette prudence de la chair, qui ne recherche que les biens de cette terre, ne s'inquiète pas trop de commettre l'injustice. Tout lui est bon, remarque saint Thomas, astuce, ruse, fraude, et c'est l'exemple de l'économe infidèle. Au Ve siècle déjà, mais la nature humaine est toujours la même, au Ve siècle, saint Pierre Chrysologue décrivait les malheurs causés dans le monde par le mauvais usage de l'argent. Ce sont les richesses, écrivait-il, qui commandent aux nations et à leurs chefs, qui poussent aux guerres, qui asservissent les peuples, troublent les villes, assiègent la foi, violent la vérité, endurcissent le cœur, brisent les liens du cœur et de l'amitié. C'est là Mammon, le maître d'iniquité, qui exerce sa domination inique sur les âmes et sur les corps. Et cela a pris aujourd'hui des proportions extrêmes. Le monde entier n'est plus gouverné que par les puissances financières aux mains de la franc-maçonnerie. Eh bien, dans cette parabole de l'économe infidèle, notre Seigneur exhorte les baptisés, les enfants de lumière, à déployer davantage de zèle pour acquérir les biens éternels que les enfants de ce siècle n'en ont pour acquérir les biens de ce monde. Et c'est la première leçon de cette parabole. La deuxième leçon nous indique un message, un usage de l'argent auquel nous ne serions peut-être pas attendus, un usage de l'argent qui nous obtiendra la miséricorde de Dieu au moment de notre jugement. Et moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec le mammon d'iniquité, afin que quand tout vous manquera, il vous reçoive dans les demeures éternelles. Quand tout vous manquera, c'est-à-dire à l'heure de notre mort. Notre Seigneur nous invite ici à dépasser les enfants de ce siècle, non seulement par le zèle, mais aussi par la sagesse. C'est en effet une sagesse supérieure que de faire servir les richesses de ce monde, non pas pour nous installer ici-bas la vie la plus confortable et la plus agréable possible, mais pour gagner le ciel. C'est beaucoup plus utile et c'est plus intelligent, puisque nous n'emporterons pas nos richesses dans l'éternité. Comme on le dit, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Comment les richesses, l'argent, peuvent-ils servir à nous obtenir le ciel? Eh bien, le sens premier et immédiat de cette parabole, c'est que si l'on se sert de nos richesses pour soulager les pauvres, eh bien, ceux-ci prieront pour nous en retour et ils seront nos avocats auprès de notre Seigneur au moment de notre jugement pour nous obtenir le salut. Avec quel respect et quel empressement nous devons aller au-devant de ces pauvres qui doivent nous recevoir dans les demeures éternelles, dit saint Grégoire le Grand, les regardant comme des patrons à qui nous portons des présents plutôt que comme des indigents à qui nous faisons des largesses. Bien sûr, aujourd'hui, l'organisation socialiste de la société rend difficile, contrairement aux autres siècles, ce devoir de faire l'aumône aux pauvres. L'État s'est accaparé la charité en la transformant en un humanitarisme athée. Un humanitarisme inhumain, en fait, parce qu'il ne s'occupe que des corps, en laissant les âmes dans leur misère, dans leur désespoir. Cette parabole serait-elle alors devenue inapplicable aujourd'hui? Il faut d'abord dire que les pauvres à secourir ne sont pas nécessairement aujourd'hui les pauvres qui sont dans la rue. Mais ce peut être, par exemple, telle famille nombreuse de la tradition qui n'arrive pas à payer la scolarité de tous ses enfants. Eh bien ici, secourir les pauvres pourra être offrir une bourse pour la scolarité d'un enfant. Quelle belle œuvre! D'autre part, la miséricorde, qui est l'objet général de ces paraboles, ne consiste pas uniquement à offrir des secours matériels. Nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, couvrir ceux qui sont nus, toutes ces actions sont les trois premières œuvres de la miséricorde corporelle. On y ajoute accueillir les hôtes, visiter les malades et les prisonniers, racheter les captifs, ensevelir les morts. Toutes actions que la charité de l'Église n'a cessé d'accomplir tout au cours des siècles. Mais il est une miséricorde encore plus élevée. C'est la miséricorde spirituelle, celle qui a pour objet non plus les corps, mais les âmes. Elle se déploie, elle aussi, en toutes sortes d'actions auprès du prochain. Enseigner les ignorants, par exemple, faire le catéchisme, diffuser la bonne doctrine. Donner des conseils à ceux qui en ont besoin. Consoler les affligés. Corriger les pécheurs avec prudence. Pardonner les offenses, supporter les injures avec patience, et enfin prier pour les vivants et les morts. Vous voyez, il y a toute une palette. En ce 19 juillet, d'ailleurs, l'Église met devant nos yeux l'exemple extraordinaire de saint Vincent de Paul, véritable providence de son siècle. L'imagerie populaire a surtout retenu de lui l'assistance aux enfants abandonnés qu'il allait recueillir dans les rues de Paris. Mais l'Église, dans l'oraison de la fête de saint Vincent de Paul, insiste surtout sur les secours spirituels qu'il a apportés à son temps. Ainsi, ses efforts pour refaire un clergé saint et savant, sa fondation d'une congrégation pour l'évangélisation des pauvres, les lazaristes. Et comme son cœur n'avait pas de limites, on le trouvait partout où il y avait des misères à soulager, autant spirituelles que corporelles. Il se rend dans les galères pour alléger le sort des galériens. Il va sur les champs de bataille réconforter les blessés et les mourants. Il sillonne les rues de Paris avec ses filles de la charité, recrutées dans la noblesse d'abord, pour recueillir les enfants abandonnés et visiter les pauvres. Tout ce qui est à soulager est de son ressort. Comprenons donc bien que la miséricorde ne consiste pas seulement à soulager les corps, mais qu'elle se penche aussi et surtout sur les âmes, et ce sont surtout les âmes qui sont dans le malheur aujourd'hui. Et ce sont d'ailleurs les deux espèces de miséricorde, corporelle et spirituelle, que notre Seigneur avait en vue lorsqu'il dit au sermon sur la montagne « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et saint Thomas d'Aquin rattache cette béatitude de la miséricorde à la vertu de prudence. Nous y revoilà encore. La prudence surnaturelle consistant à organiser notre vie au mieux pour aller le plus sûrement au ciel, eh bien c'est une prudence supérieure que d'exercer la miséricorde envers notre prochain, de faire du bien autour de soi. Au jour de notre jugement, tous ceux à qui nous aurons fait du bien dans notre vie, bien corporelle ou bien spirituelle, convaincront notre Père céleste de nous ouvrir les portes du ciel et nous recevrons dans les demeures éternelles. C'est dans ce sens que l'apôtre saint Jacques dit « La miséricorde n'a rien à redouter du jugement ». Mais si l'on veut aller plus profondément, il faut répondre à la question suivante. Pourquoi le fait de faire du bien autour de nous touche-t-il à ce point le cœur de Dieu? Eh bien, cela tient à deux raisons. La première, c'est que se pencher sur la misère des âmes et des corps pour tâcher d'y porter remède, c'est imiter Dieu dans ce qui est le sommet de sa bonté envers les créatures. C'est servir d'instrument à Dieu pour répandre sa miséricorde sur le monde. Et c'est la tâche des chrétiens. Et ainsi, l'on attire sur soi la bienveillance de Dieu qui sera portée à nous faire profiter nous-mêmes de sa miséricorde quand nous en aurons besoin, spécialement au moment de notre mort. La deuxième raison pour laquelle notre charité envers le prochain nous obtient la miséricorde de Dieu découle du mystère du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel notre prochain est un membre du Christ. Ainsi, soulager notre prochain, c'est soulager le Christ. Et cela nous reporte à la scène grandiose du jugement dernier, décrite par notre Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa majesté avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès l'établissement du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais sans asile et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim et que nous vous avons donné à manger, avoir soif et que nous vous avons donné à boire? Quand est-ce que nous vous avons vu sans asile et que nous vous avons recueilli, ou nu et que nous vous avons vêtu? Ou quand est-ce que nous vous avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus à vous ?» Et le roi le dira, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Au jour du jugement, notre Seigneur se souviendra dans les moindres détails de ce que nous lui aurons fait à travers nos frères, et il nous fera miséricorde. Évidemment, toute cette charité, bien sûr, s'entend d'une charité surnaturelle. Faire attention, charité qui est la conséquence de l'état de grâce, qui est faite en état de grâce. Nous agissons en état de grâce pour notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pour cela que nous faisons du bien à notre prochain. Parce que la charité surnaturelle pour le prochain doit être la conséquence et le signe de notre charité pour Dieu. On va tomber dans un espèce d'humanitarisme, bien sûr. Alors, tandis que le mauvais riche de la parabole, qui aura vécu dans l'orgueil et l'égoïsme, et sera resté indifférent aux misères de son prochain, sera emporté dans l'enfer avec les méchants, eh bien, notre Seigneur emportera tous ceux qui auront exercé cette miséricorde avec lui dans la gloire du ciel. Alors, il n'y a plus maintenant, eh bien, qu'à nous mettre au travail. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.